Salut à tous, bienvenue dans un Bistro Vélo, votre rendez-vous hebdomadaire. Tous les lundis, 18h, on parle vélo ici avec de jolis menus. Et on attaque tout de suite, grâce à Sébastien Petit, par ce menu de la semaine. Tapas, ça va nous emmener du côté du Pays Basque, Iarden, la première des Ardennaises hier. L'Amstel Gold Race, victoire de Michal Kwiatkowski, la deuxième place de Benoît Cosnefroy et la huitième place de notre invité, mais je vous dis pas qui c'est. Bah c'est lui, c'est le fondu suisse, notre invité. Ce sera notre plat de résistance, bien entendu. Et avec notre fondu suisse, on parlera de pavés divins, les pavés de Roubaix. Roubaix, ce sera dimanche prochain. Vous voyez qu'on a un menu copieux. Alors, pour savoir qui est notre invité, bah, le plus simple, peut-être, eh bien, c'est de demander à ses fans. Écoutez, c'était sur le Ronde van Vlaanderen, le Tour des Flandres. Quand je vous dis que c'est une superstar, il est venu avec toute sa famille. Bonjour Stéphane Kung, on a vu ces images impressionnantes. C'était quoi? C'était la famille? C'était les copains? Il y avait du monde sur le Tour des Flandres?
C'est mon fan club belge, les King Kung Freunde. En fait, je ne connais personne personnellement, c'est que les Belges en fait. Et j'ai aucune connexion familiale avec eux. Mais maintenant, ils sont devenus mes fans et aussi un peu des amis.
Ça doit te faire plaisir parce qu'on va reparler de ta carrière. Tu viens, enfin, les gens te connaissent comme un spécialiste du chrono, mais on va voir ton palmarès. Il n'y a pas que le chrono. Bien sûr, il y a eu de belles choses en chrono, par équipe, champion du monde avec la BMC, des titres de champion d'Europe, champion de Suisse à plusieurs reprises. L'année dernière, avec la FDJ, il y a même eu un classement général. C'était le Tour de Valence. Tu avais remporté le chrono. Troisième des championnats du monde sur route. Ça, les gens ont tendance à l'oublier également. Et puis, champion du monde de poursuite individuelle. C'était en 2015. Après, il y a eu la génération Corentin, Hermenot, Filippo Ganna, etc. Mais toi, maintenant, tu as envie de marquer de ton empreinte les classiques. Hier, encore huitième de l'Amstel, tu es en train de réaliser ta meilleure saison sur les classiques. Comme ça, troisième du Grand Prix E3, un top 5 sur le Ronde, en contrôlant les échappées derrière Valentin Madouas. 28 ans, chaque année, step by step, tu franchis des paliers.
Oui, ça m'a pris quelques ans jusqu'à je suis vraiment devenu très constant et constamment performant sur ces Flandriennes. Mais ouais, là, je me sens en pleine confiance et la plus belle reste à venir.
La plus belle, on en parlera à la fin, c'est Roubaix, c'est celle qui te fait rêver. Alors, c'est plus plat que les autres, mais moi, encore hier, quand on regarde comment tu passes les monts, tu te surprends de passer les monts aussi bien là depuis 3 semaines?
Ouais, en fait, ça a déjà commencé au Tour d'Agave où je me suis surpris un peu moi-même dans la première arrivée en montée à Foya où David Godu gagne. J'ai encore mené le petit groupe de favoris jusqu'à 1 km de l'arrivée pour durcir pour lui. Et puis derrière, je crois que j'ai fait 7 du général. Donc déjà là, en fait, j'étais parmi les grimpeurs. Certes, c'était pas des longues arrivées en bosse, mais quand même. Et puis aussi sur le Paris-Nice, c'est là où je me suis surpris moi-même un peu le plus parce que avec plusieurs montées et toute l'étape était parcourue très vite et qu'on était dans le col d'Aix et puis je crois que c'est les Ineos qui attaquent et j'étais encore capable de suivre. J'ai dit normalement je devrais péter là, mais bon, ça va toujours, donc je m'accroche.
Tu avais fait une saison très très longue l'année dernière, tu avais coupé au chrono des Nations, pratiquement pas de vacances. Stage à Calpe, un petit peu peut-être en retrait par rapport aux autres. Mais là, tu parles de Paris-Nice, tout de suite les résultats qui viennent. C'est quoi? C'est le travail aussi, le fond de caisse. Tu disais travailler. Tu travailles pour David Godu, tu as travaillé pour Thibaut Pinot dans les débuts des ascensions sur les grands tours. Tu crois que c'est ce travail aussi qui t'aide aujourd'hui?
Après, on a beaucoup évolué dans l'équipe aussi, comment on approche la saison. Maintenant, c'est devenu une habitude de faire des stages en altitude pour moi. Et cette année-ci, j'étais au TD pendant 2 semaines et puis on est passé après Dreguer dans un hôtel avec des chambres hypoxiques. Et moi, je sais normalement quand je sors de l'altitude, je marche bien. Mais après, c'est aussi histoire de conserver cette bonne condition. Et ça, cette année, on a vraiment bien réussi. Pourtant, je suis tombé malade après Paris-Nice avec le virus que presque la moitié du peloton l'a eu, avec une bronchite. Mais maintenant, avec mon entraîneur, on parle beaucoup, qu'est-ce qu'on peut encore améliorer et tout. Et je crois maintenant, on a vraiment trouvé la recette pour arriver en course avec assez de fraîcheur. Parce que finalement, sur ces courses-là, certes, il faut une condition très, 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 très bonne, mais il faut aussi de la fraîcheur pour être assez, pour avoir assez de punch de suivre ces accélérations courtes et violentes dans les monts.
C'est Julien Pinault, ton entraîneur, je dis pas de bêtises. On a vu et on a parlé justement avec les performances de la Jumbo-Visma sur ce début de saison. C'est vrai qu'avant, on faisait des stages en altitude, mais c'était plutôt pour le Tour de France, plutôt pour les grands tours, des fois avant le Giro. Aujourd'hui, on voit les Jumbo le font. Vous le faites également pour être au top sur les classiques. Les classic men doivent aujourd'hui passer en altitude. C'est obligatoire,
Je
selon
crois
toi?
que chacun doit trouver ce qui marche bien pour lui parce que chacun réagit différemment aussi à l'altitude, par exemple. Moi, je réagis très, très bien. En fait, je souffre beaucoup dans la première semaine à l'altitude et puis après, mon corps, il rectifie le tir en s'adaptant, ce qui me permet d'être très performant après derrière. Et puis maintenant, c'est vraiment. Déjà calé en début d'année, que je vais en altitude une première fois avant le classique, je vais en altitude une deuxième fois avant le tour et je vais en altitude une troisième fois avant la période championnat d'Europe, championnat du monde. Et comme ça, en fait, tu fais des rappels à chaque fois et tu restes dans le truc et ton corps il s'adapte plus rapidement.
Ouais. En
Et ça
plus,
fait quelques
chacun
années.
n'a pas le même rapport à l'hypoxie ou à l'altitude. C'est-à-dire qu'il faut le
Oui.
pratiquer pendant 1, 2, 3 ans pour à chaque fois regarder les données et faire du à la carte en fonction de chaque athlète.
Exactement, parce que moi, comme j'ai dit, je souffre beaucoup. Donc, en fait, pour moi, on a remarqué si je vais trop haute en altitude, ça me crame, entre guillemets. Et il y a d'autres, par exemple, Bruno Armiai dans notre équipe, lui, en altitude, il est comme le poisson dans l'eau. Et donc, là, il était au pic du Midi Bigorre à 2008 et il dort encore bien. Si moi, je vais à 2008,
Tu dors pas.
ouais,
Ouais,
je dors pas.
ça c'est un vrai problème. Mais bon, lui, il est de là-bas, c'est un Occitan, il aime bien les Pyrénées. On va revoir ce qui s'est passé hier à l'arrivée de l'Amstel. On reverra ta course, mais on va s'intéresser sur les deux premiers. On a titré Amstel, Cosne chaud et froid. L'arrivée avec Benoît Cosnefroy qui emmène Michal Katowski. On voit Tiche Benoît au fond qui va aller chercher la troisième place. Toi, tu es dans le groupe derrière qui se regarde un petit peu, qui a laissé partir Katowski et Benoît Cosnefroy. Tu vas aller prendre la huitième place. Mais le plus fou, c'est ce qui s'est passé après, sur la ligne. Je ne sais pas si tu as suivi exactement ce qui s'est passé. En fait, dans l'oreillette, on dit à Benoît Cosnefroy, tu as gagné. Alors, qui l'a dit? On va avoir une petite explication dans quelques instants. Ce qui s'est passé, c'est que dans la radio de la course, on a annoncé Benoît Cosnefroy, sauf que celui qui a annoncé ça dans la radio de la course, il n'avait pas vu la photo finish. Si on t'annonce dimanche, tu as gagné le Paris-Roubaix, il faut éviter ce genre de choses avant envie d'avoir la photo finish. Tu les as croisés, tu étais pas loin?
Oui, je l'ai vu à l'arrivée et je lui ai vu lever les bras et puis un photographe. Et je crois qu'il n'était pas encore sûr. Et puis un photographe qui lui dit, allez, lève le bras pour la photo. Puis il a célébré et tout. Et après, je l'ai su après, en fait, quand je suis revenu au camping-car, que en fait, j'ai vu la photo du photo finish et que c'était Kwiatkowski. Ouais, ça doit être un moment très, très dur pour Benoît. Quand tu te crois déjà vainqueur, tu as tout. Un soulagement et une joie énorme qui vient, et après, derrière, un an, que deuxième, entre guillemets.
Ouais, c'est pas mal quand même. Un podium. Il avait déjà remporté le Grand Prix de Poué. Là, c'est une semi-classique. On va écouter les explications de Julien Jurdi sur ce qui s'est passé, le directeur sportif de l'équipe AG2R Citroën.
Ben, le sentiment est un peu mélangé parce que forcément, il y a de la joie. Hein, on fait deuxième de l'Amstel Gold Race en étant acteur sur la course. Mais bon, malgré tout, beaucoup, beaucoup de frustration actuellement parce que. Radio Tour annonce dans un premier temps, comme vous le savez, Benoît vainqueur. On a bien vu à la télé que c'était tendu. Benoît aussi me l'a dit à la radio, photo finish. Donc j'espérais que Radio Tour annonce le résultat en ayant vu la photo finish. Bon, ça n'a pas été le cas malheureusement. Donc c'est clair qu'on est monté l'ascenseur émotionnel très très haut. Parce que c'était une victoire importante pour nous. C'est la première. On a fait beaucoup de podiums actuellement depuis quelques années sur tous les monuments, sur les grandes classiques. Milan-San Remo, Tour des Flandres, Paris-Roubaix, Liège-Bastogne-Liège, Flèche Wallonne. Voilà, et même si c'est pas un monument, l'Amstel reste quand même l'une des plus belles courses de la saison. Donc forcément, la joie était immense et la déception l'est autant qu'on apprend qu'il manque un petit centimètre pour aller jouer la victoire. Voilà, on va quand même retenir le positif, parce que Benoît a vraiment fait une course de folie aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment important, je dirais, à quelques jours des Ardennaises.
On comprend à demi-mot que c'est Julien hein, qui donne l'information à Benoît parce qu'il l'entend sur Radio Tour, mais Radio Tour, il n'y avait pas la photo. Bon, c'est ballot. Toi, comment ça s'est passé hier? Huitième place, à un moment pris par la stratégie, il y a Katowski qui sort, il y a Valentin qui est derrière, c'est l'inversion du ronde. Puis il y a quand même des solides gaillards au sprint, tu ne peux pas trop bouger, c'était compliqué.
Oui, bon, dans l'idéal, on est deux devant avec Valentin, mais bon, ça s'est fait dans le Kuttenberg, et puis on s'est retrouvé dans une situation comme ça. C'était les costes au devant, ça s'est fait à la pédale, la sélection, et puis après, certes, en fait, je m'attendais vraiment à des attaques genre de Van der Poel, Hirschi. Je pensais que j'attendais toujours leur grande attaque, et je me suis dit, je ne vais pas m'exprimer avant pour être en mesure de les suivre. Et puis après Ineos, ils en avaient deux et on voit Kvyat il sort en facteur à 20 km de l'arrivée. Et après, derrière, ouais, ça se regarde un peu, chacun commence à attaquer un peu. Et Benoît, en fait, dans la descente, il est sorti d'un virage avec Benoît. En fait, ils ont loupé un virage et devant nous, on a temporisé, pas pour les attendre, mais je crois qu'il a dû arriver avec tellement d'élan par derrière. Il a dit, bon, c'est le moment pour poser une mine et après... Certainement, elle était très fort pour pousser le trou là devant le gueule de Lemmerberg.
Il y a Pitcock qui contrôle derrière. Il y a plein de questions. Il y a Mickaël qui te dit, on a vu plusieurs fois, hier, tu demandes au groupe de chasse de tourner pour revenir sur le duo. Personne ne le fait. Est-ce que tu as été déçu de la mauvaise entente? Et puis, on nous dit, Mathieu Van Der Poel semblait un petit peu moins dominateur que ce que l'on avait vu sur le round de Van Vlaanderen. Ça doit te donner des petites idées, des indications pour dimanche, de le voir un petit peu moins fort. Il manque de dossard. Alors certes, il a attaqué très fort, mais est-ce qu'il aura le foncier? C'est la question qu'on peut se poser, que tu dois te poser, j'imagine.
Oui, en fait, Van Der Poel, ouais, je croyais qu'il allait être encore plus fort hier que ce qu'il a été. Et peut-être je me suis un peu trop calé sur lui, mais en fait il n'était peut-être pas dans une super journée. Bon, après on parle de Van Der Poel et pas être dans une super journée, c'est comme 4 de l'Amstel.
Ouais, il fait 4, mais bon, le mec pas dans une super journée, il fait 4.
Oui, voilà. Mais du grand Van Der Poel, je dirais, il fait tout exploser à 30 km de l'arrivée et limite il finit tout seul. Non, mais après j'ai demandé au groupe de collaborer parce que on se rappelle de l'Amstel 2019, par exemple. Ça se regarde tout le temps, ou le round, il y a une semaine. Ça se regarde toujours à l'arrivée. Et si on est à 40 secondes, ils ont tout le temps du monde pour se regarder. Mais si on est à 20 secondes, tu ne sais jamais. Et là, ça rouvre derrière. Après, chacun a mis ses attaques. On était quand même assez homogène dans le groupe derrière. Et à chaque fois... sur une attaque, ça a mis tout le monde à bloc et personne ne pouvait réagir derrière. Donc, en fait, c'était vraiment accélération sur place, accélération un peu sur place. Et puis, ouais, il fallait trouver le bon moment. En fait, ça ne soit pas trop à la caméra, mais Van Der Poel, il attaque à 1,5 km de l'arrivée ou quelque chose comme ça. Et moi, j'y vais derrière, mais Pitcock, il se met dans ma roue et c'est le prochain coup avec Benoît.
Ouais, il arrête après, tout ouais, c'est Benoît. Ouais, Benoît qui ressort pour aller... Razaguer la troisième place parce que c'était fini à ce moment-là.
Oui. On jouait. Et après, ça se regarde au sprint derrière pour qui lance, et contre des mecs comme Van Der Poel, Matthews, tout ça, c'est pas très facile de les battre.
Bon, il y avait quand même deux sur le ronde. Hier, il y a Valentin qui est juste derrière. Ça promet forcément pour dimanche. On va en reparler avec Marc Madio, d'ailleurs. Tiens, puisqu'on parle de la FDJ, de la Groupama FDJ, on va parler de votre sponsor. La FDJ également, sponsor commun avec les filles. Et première grosse victoire pour les filles de Stéphane Delcourt hier, grâce à Marta Cavalli. La nouvelle venue, l'italienne Marta Cavalli, 24 ans, qui a gagné l'Amstel Gold Race chez les filles. Elle est sortie hein, dans le final. Ils ne l'ont plus jamais revue. la première donc grande victoire pour cette FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope. Je vous propose d'écouter deux personnes, Marie Lenette, la coéquipière, qui vient de la piste. Je ne sais pas si tu l'as déjà croisée dans un vélodrome, Marie Lenette, vice-championne du monde de l'américaine avec Clara Copponi, et Nico Mer, l'un des directeurs sportifs de cette équipe FDJ Nouvelle-Aquitaine. Victoire sur l'Amstel hier pour les filles.
Alors pour la petite histoire, pendant la course, j'ai été à côté de Martha. Je la voyais pas au mieux et je lui demande mais comment ça va quoi? Elle me dit je me sens pas bien. Et là du coup je me dis mais il faut le dire dans la radio. Je dis dans la radio bah Martha n'est pas bien. Nico qui me demande, notre DS me demande Marie tu te sens comment? Je fais bah pas ouf ouf. Après il y avait Victo qui était là, il fait bah Victo tu te sens comment? Victo qui fait je me sens pas bien. Et là on se fait comment on va faire? Sachant qu'il y avait des groupes qui partaient, on n'était pas représentés. J'avoue que franchement on n'a pas forcément pris la course du bon côté, mais Martha, je sais pas, elle a ressuscité dans le final. Elle nous a fait, enfin, j'ai vu les vidéos de l'arrivée, elle nous a fait un truc mais de incroyable. Et franchement,
ouais, bah, je pense que ça fait plusieurs années qu'on franchit des caps. Cette année, on avait le sentiment, voilà, d'avoir encore franchi un cap, d'avoir un groupe beaucoup plus homogène avec forcément des leaders tels Martha, tels Cécilie, tels Grace. Mais que tout le groupe était fort, on avait des bons résultats, mais il nous manquait toujours ce petit brin de réussite pour aller en claquer une belle. Et là, j'espère que en fait, ça va être juste la première d'une longue série et que ça va être un élément libérateur pour tout le monde. Et puis de se dire, voilà, maintenant on ne se pose plus de questions, on va à fond et on essaye de gagner, et pas avoir d'inhibition. Ah, si j'attaque, est-ce que je vais me faire rattraper? Je ne vais peut-être pas faire un résultat. Vraiment aller chercher un gros résultat au lieu d'aller chercher peut-être seulement une petite place, quoi.
Cyclisme féminin qui continue bien entendu de se développer. Notre monument, ce sera samedi, hein, Paris-Roubaix pour les filles. On continue, on va parler de toi maintenant. On a titré le King Kong. On n'a pas. Si je te dis que tu es peut-être l'étranger qui s'est le mieux acclimaté en France, en tout cas celui qui a les meilleurs résultats, tu en dis quoi, Stéphane?
Je me sens très très bien dans l'équipe Groupama FTJ. C'est ma quatrième année en fait dans l'équipe et ouais, comme tu dis, je me suis très très bien acclimaté et ouais, je me sens partie de la famille.
Et j'ai envie de dire l'inverse aussi, parce qu'il faut s'acclimater à un spécialiste du chrono. Moi, tous les spécialistes du chrono que je connais, ils sont un peu spéciaux. Tout va bien dans cette équipe, je sais qu'on travaille beaucoup. Alors, on a parlé de Julien, le matos est super important. Tu travailles aussi avec la marque Lapierre, la marque emblématique de Marc Madio. Tu tires tout le monde vers le haut, tu te sens comme une locomotive?
Oui, on travaille en continuité sur tous les fronts. Là, en fait, jeudi avant l'Amstel, j'étais sur le pavé de Paris-Roubaix pour une reconnaissance. Vendredi, on était dans le vélodrome couvert de Roubaix pour faire des tests aéro déjà en vue des prochains rendez-vous en été. Et puis, samedi, je suis arrivé sur l'Amstel. Donc, tu vois, on est tout le temps en train de travailler, même entre les courses, entre eux. Et puis, eux, ils sont vraiment… Ils sont aussi tout le temps dedans. En fait, eux, ils font les recherches derrière et dès qu'ils ont trouvé des nouveaux trucs, ils me proposent et disent « Écoute, on a ça, 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 on veut tester ça, ça, ça. » Et moi, ça m'intéresse. Je suis beaucoup en échange avec eux. Partie matérielle, c'est surtout avec Fred Krapp, Julien Pinault, Anthony Bouillot. Mais après, on travaille sur beaucoup de fronts. Et en fait, je m'intéresse à tout ce qui peut améliorer la performance, soit la nutrition, soit l'entraînement, soit le matériel. Et ouais, c'est aussi une chose qui me plaît beaucoup dans cette équipe, qu'en fait, on est tout le temps en échange. C'est pas les entraîneurs ou les scientifiques derrière qui décident un truc.
Fait comme ça.
Là, ouais. Oui, exactement. Ouais.
C'est intéressant.
C'est vraiment
ce que tu
dans
dis.
La discussion avec eux.
C'est ce qui est intéressant. Tu parles de Fred Grapp, hein, bien entendu, entraîneur, mais aussi statisticien de cette équipe et de l'entraînement, hein, avec Julien. Au-delà de ça, on se rend pas compte des fois. Benjamin Thomas nous disait, moi tu l'as bien connu, il est parti à Cofidis, moi quand je vais arriver chez Cofidis, le but c'est de faire gagner 2-3 secondes à Guillaume Martin au chrono. Je dis 2-3 secondes, mais ça a l'air complètement fou. Non, si, nous les chronomanes, on a des petits trucs comme ça, tu peux nous donner un petit truc, lequel on ne pense pas forcément pour que le grand public se rende compte?
Oui, par exemple, pour la stratégie de pacing, pour vraiment savoir où mettre ton effort. Et en fait, comme ça, tu peux, genre, avec David Codu, je lui parle avant un chrono, par exemple, autour d'Algarve. Et puis, je lui fais un feedback. Je lui dis, écoute, moi, j'ai vu ça, ça, ça. Et là, c'est vraiment important d'investir. Là, tu peux soulager un peu parce que c'est nous les spécialistes. Moi, je pointe aussi un peu les courses qui ont des chronos, où je fais des chronos comme par exemple le chrono des nations. Donc, j'ai plus d'expérience dans ce domaine-là. Et puis, comme ça, on peut toujours leur donner des conseils. Et puis aussi, en fait, tous les tests aéro que je fais, ça va aider toute l'équipe. Parce qu'on teste des roues différentes, on teste des combinaisons différentes, et en fait, ça va servir aux autres cas derrière.
On a eu Anthony Turgis qui est venu. Alors, ils ont changé de matériel. On va donner toutes les marques. Ils sont pas chez CSP. Il nous a raconté une demi-journée de test avec les mecs de SP dans un vélodrome. Je crois que c'était à Valence. 25 watts de gagné. Moi, ça m'a paru complètement fou. J'imagine que toi, tu pars aller chercher 25 watts. C'est plus compliqué parce que tu es déjà à fond. Mais sur un vélo de chrono, 25 watts de gagné pour un mec qui n'est pas un spécialiste du chrono, même si c'est plutôt un bon rouleur, c'est un chiffre qui te paraît cohérent. 25 watts, moi, ça me paraît complètement fou.
Si, c'est possible parce que, comme tu dis, ça dépend de quelle base tu
De là où tu
pars.
pars,
Et
oui.
en fait, tu peux croire que, en fait, quand tu te regardes une photo dans un miroir, ah oui, je suis bien posé. Mais des fois, il y a des trucs, en fait, il faut tester pour savoir. Parce que dans l'idéal, on a toujours dit, c'est comme Bradley Wiggins, avoir un dos tout plat où tu peux mettre une bouteille dessus. Mais sur certaines formes de coureurs, je parle de formes de corps, pas le plus aéro. Donc des fois c'est mieux si t'as le dos courbé selon où tu as la tête, et si la tête elle est haut comme ça
Il n'y a
comme une
pas une
tortue un
position
peu.
parfaite, il y a une position parfaite par coureur en fait, c'est ce que tu nous dis.
Oui, exactement, exactement. En fait, chaque coureur doit trouver sa position parfaite, et tu peux pas copier-coller un schéma à tous les coureurs parce que ça va pas fonctionner. Parce que derrière aussi tu dois être capable de faire des gros efforts dans cette position. C'est beau d'avoir la position la plus aéro du monde, mais ça marche pas quand tu peux appuyer, ça fonctionne plus.
Tu es en train de passer à l'ombre. Je te dis ça comme ça. En Suisse, là, je sais
Ah.
pas. Mais c'est pas bon. Si
Oui,
tu
il y
arrives
a
à
le
te remettre un
soleil
peu.
là qui est en train de se coucher, donc ça bouge un
Mais
peu.
j'avais une question sur le coup, sur le matos. C'est Mickaël qui demande, puisqu'on parle de matos, on a beaucoup parlé des selles télescopiques, celles de Matai Mohoric. Hein, on sait que c'est utilisé en VTT depuis 2014, je crois. En tout cas, c'est dans le règlement de l'UCI. Est-ce que tu penses, et c'est la question, que ça va se démocratiser sur les chronos? Par exemple, est-ce que ça a intérêt de changer la selle? Je ne suis pas sûr, ça. Imaginons, position de descente, tu descends pour être mieux sur la descente. C'est possible, ça?
On met le chrono. D'abord, il faudra inventer une piège télescopique dans une forme d'un vélo de
De
chrono.
chrono,
Parce qu'en
ouais, c'est
fait,
ça.
Matej, il a pris le vélo normal de Mérida, qui avait un diamètre, je crois, de 28,2. Et en fait, il a trouvé une piège télescopique
Qui rentre.
du VTT
Ouais.
qui allait dedans. Donc, en fait, il faut déjà avoir une tige de selle, une forme de tige de selle normale, parce que beaucoup des vélos de route, ils ont des formes spéciales et tu vas déjà sur le marché pas trouver une piège télescopique.
Est-ce que avec la pierre, vous êtes capable d'en fabriquer une pour voir s'il y a un gain? Parce que vous avez dû y penser. Avec Julien, avec Fred, vous avez dû y penser.
Oui, on a déjà discuté de ça il y a longtemps, entre guillemets, parce que aussi on travaille ensemble avec Oscar Sainz, c'est un entraîneur de descente. Et en fait, lui, il nous a parlé de ça déjà il y a 3-4 ans. Il a dit, mais tu vas voir, mais une tige télescopique, une fois, ça va changer la vie sur la route, comme tu le connais sur VTT. Et quand Moritz l'a utilisé, il m'a tout de suite écrit. T'as vu, je t'avais dit.
Bon, maintenant il va falloir faire fabriquer. Tiens, on va se faire un petit plaisir, on va se taire et on va regarder cette petite vidéo. C'est à l'arrivée du Ronde. C'est Marion Lecoultre qui a filmé ces images. Moi j'aime bien parce qu'on te voit avec Valentin et on voit surtout l'effort. L'effort sur votre visage. Il y a Olivier Legac qui arrive. Voilà, on est en inside. C'est ça aussi le vélo à la fin. Nous on regarde. Bon, il a qu'à faire ça, il a qu'à faire ça. Non, ça se passe comme ça.
Olive, ça fait plaisir. T'as une autre olive que la dernière. C'était vraiment bien, mais je peux pas rouler sur toi. Ouais. Si on se fait baiser et on fait 4 et 5, comment de coucou et de bouger.
On sent la complicité hein, qui est en train de se créer avec Valentin. Valentin qui sera sur Paris-Roubaix. Hein. Je crois que ça sera son premier, il l'a dit. On va faire ton questionnaire, Stéphane Kuhn, questionnaire Bistro Vélo. Une question, ta réponse. Ton meilleur pote dans le peloton, Stéphane Kuhn.
En ce moment, je crois que c'est mon compagnon de chambre chez Groupama FTJ, c'est Kevin Jennings, parce que je passe tellement de temps avec lui. Entre les stages, les courses, on a tout le temps le même programme. Donc, ouais.
Spécialiste du chrono aussi, en tout cas il le travaille énormément, il est champion du Luxembourg, hein, du chrono je crois.
Ouais, ouais. Mais il dit, ouais, le chrono je l'aime bien, mais pour moi c'est plus les courses punchy qui me conviennent le mieux.
Ton meilleur souvenir sur le vélo, Stéphane?
Pouah, c'est dur, il y a déjà eu beaucoup, mais j'attends toujours, tu vois. La plus belle est à venir, je pense.
Ton premier coup de pédale?
Pouf, c'est ma mère qui pourrait te dire, je pense. Elle m'a toujours dit, en fait, elle a dit une fois, je crois que tu étais déjà né, tu avais déjà le vélo au pied. Parce que j'ai commencé, dès que je pouvais marcher, je me suis mis sur un vélo et j'ai commencé très tôt et j'ai passé toute mon enfance sur un vélo, en fait.
Et pourquoi? Pourquoi le vélo? De l'atavisme, il y a du monde dans la famille qui fait du vélo?
Non.
Ou... Non, toi, pas comme ça. Tout.
C'est juste parce que je l'aimais bien, j'aimais bien être dehors et j'aimais bien explorer un peu autour de notre quartier et le vélo, il me servait bien. Et puis après, j'aimais aussi de tester les limites. Et en fait, on habitait en bas d'une petite colline, donc je suis à chaque fois monté avec le vélo et je suis descendu le plus rapidement possible. Et j'ai pris le virage à droite à l'entrée du quartier et j'ai fini par terre. Et puis là, j'ai vu, ok, ça c'est trop.
c'est comme tout le monde en fait. J'ai l'impression, Jackie dit la même chose quand on lui en parle, David Moncoutier la même chose. C'est aussi pour franchir l'interdit. Maman, elle avait dit, tu dépasses pas là. Puis on dépasse, ouais, pour aller voir un petit peu plus loin et se sentir libre, vivant et presque adulte, parce qu'on est encore des gamins quand on fait ça. Ton idole de jeunesse, Stéphane?
C'était Michael Albazini, parce qu'en fait, il habite pas très loin de chez moi et j'ai toujours adoré le regarder en course parce que c'était peut-être pas le plus grand champion de l'époque, mais il avait de la grinta, il partait à chaque fois et tu voyais bien... qui mettait tout pour aller chercher ses victoires.
Spécialiste de classique, mais c'était plus les Ardennaises, lui, qu'il aimait, ouais. Michael Albazini. Ouais. Si tu devais en gagner qu'une, tout à l'heure, tu as dit la prochaine. Si tu devais en gagner qu'une.
Un pavé dans mon salon m'irait très bien.
Il n'est pas beau, hein, mais c'est vrai qu'il a la gueule. C'est peut-être le ouais, trophée le plus vilain du cyclisme, mais il a la gueule.
Ouais, c'est ça, il est unique, quoi. C'est que à Roubaix que tu reçois une pierre et tu la ramènes avec fierté.
On va en parler dans quelques secondes. T'en as marre d'être fiché spécialiste de chrono?
Après, c'est comme ça. Hein. En fait, j'adore les chronos et c'est mon point fort, c'est un peu mon assurance vie, si tu veux, parce que je sais, s'il y a un chrono, je suis dans les billes, mais comme tu as, j'ai déjà pu gagner des autres courses, des courses en ligne, des étapes sur des courses World Tour.
Romandie. Hein.
Ouais. Et un classement général même l'année dernière.
Ah oui, avec c'était à Valence. Le chrono, la déception quand même l'année dernière, les JO.
Ouais.
Cette quatrième place, en plus, 4 ans avant, enfin 5 hein, du coup, avec la pandémie, tu étais blessé à Rio, tu n'avais pas pu disputer les JO. Et là, la médaille, elle file à rien. Quand on connaît l'importance des sportifs et des médailles olympiques en Suisse, peut-être plus que chez nous. Bon, vous en avez hein, des grands sportifs avec Federer, avec pour l'olympisme, je pense à, je vais prêcher pour ma paroisse, à Timi, Simon Hamann, 4 fois champion olympique. Là, les Suisses, cette année, en ski alpin, bah, y avait eux et les autres. Qu'est-ce qui t'en reste 28 ans, y aura d'autres jeux, ça sera à Paris. Mais c'est la grosse déception l'année dernière.
Oui, quand même. Et en fait, c'est drôle, il y a quelques jours, j'ai reçu le diplôme olympique pour la 4e place et c'est marqué dessus 4e place. Et tu dis, ouais, En fait, tu es rappelé souvent de ces 0,4 secondes. Quand tu regardes les JO d'hiver et tu regardes les courses de ski, parce que j'adore regarder ces courses, à chaque fois, tu y penses, en fait. Et en fait, ça te chasse et ça va revenir encore
C'est terrible parce que si tu en gagnes 40,
50
à
fois.
part que tu gagnes Roubaix, on dira et les 4 dixièmes. Non, mais attends,
Oui, oui,
et les 4 dixièmes. C'est terrible.
parce que j'ai des médailles sur les championnats d'Europe, j'ai des médailles sur les championnats du monde, mais une médaille olympique, ça manque encore dans ma collection.
Et
Et
toi,
j'aimerais bien en
tu as des
avoir
médailles sur piste et sur route, parce que médaille de bronze aussi sur la course en ligne des championnats du monde.
une.
Comment vient cette spécialité suisse du chrono? On connaissait Fabian Cancellara, on connaît Stefan Kung, Stefan Bisseger également, qui lui aussi vient de la piste. Il y a une explication, c'est quoi la rigueur suisse-allemande?
C'est une bonne question. Après, je crois dans la nouvelle génération dont je considère Stéphane Bisseger et moi. Nous, on est passé par la piste parce qu'en fait, l'entraîneur national Daniel Giesinger, qui lui était un spécialiste du contre-la-montre, il a voulu que tout le monde passe par la piste parce qu'il dit que la piste est la meilleure école du vélo. Et là, sur la piste, en fait, tu apprends beaucoup de choses qui te servent après derrière au chrono. Mais après, oui, je pense que c'est plutôt une coïncidence parce que, par exemple, Stéphane Bisseger, il habite à 3 km de chez moi et qu'il y a deux spécialistes ou deux des meilleurs chronomans du monde
Non, mais c'est
dans un
intéressant quand tu le
village.
dis. C'est intéressant quand tu le dis. C'est la formation, c'est la base.
Oui,
Si
oui.
l'entraîneur national, fédéral, décide que dans la formation on passe par la piste, on peut comprendre, on peut mieux comprendre ce phénomène suisse, entre guillemets en tout cas.
Oui, parce que par exemple, si tu vois par exemple Tino Emeder l'année dernière au Tour de Suisse, il fait 3 du chrono. Pourtant, ce n'est pas un spécialiste. Après, c'était un chrono très dur. Mais même un coureur comme lui, qui est plutôt grimpeur, il est aussi passé par là. Il est aussi passé par la
Ouais.
piste dans l'école fédérale, si tu veux un peu. Et oui, ça aide à tout le monde.
Je vais me faire plaisir. Je vais me faire plaisir. On bosse pas assez la piste en France. On bosse pas assez les chronos en France. Les pros. On va pas donner de nom. T'en connais qui ont progressé dans ton équipe, dans d'autres équipes. Il y a un problème. Non? Tu penses que c'est de la formation là aussi, de l'approche du cyclisme français?
La formation et aussi les courses de jeunesse, en fait. Parce que nous, dans les courses juniors internationales qu'on a en Suisse, le Tour de Pellevaux et le Grand Prix de Blébinde, il y a
Il y a un
chaque fois un
chrono,
chrono.
ouais.
Ouais. Et on a des chronos quand même dans le calendrier routier en Suisse. Il y a quand même des courses nationales qui sont des chronos. Donc, tu es obligé d'en faire, en fait. Et en Suisse, la fédération, elle t'oblige presque de faire les championnats suisses contre la montre et route.
C'est
Et
intéressant.
donc.
C'est intéressant. Je sais pas, c'est une partie de l'explication. Il y aura sûrement plusieurs facteurs, mais je pense que c'est effectivement. On en a déjà parlé. Pas assez de chrono dans les courses de jeunes en France. C'est sûrement l'une des raisons. On va regarder le Francomètre. C'est le classement des victoires. Alors bon, j'ai cherché la Groupama. C'est toujours une. Hein. Tu en as parlé tout à l'heure à Foya. Petit télescopage. C'était qui? Iguita avec.
C'est
Ah oui, avec l'ancien vainqueur du Tour de l'Avenir qu'on retrouvera sur le Giro, Tobias Foss. Mais il y a quand même 5 victoires pour la Conti. C'est important de le dire parce que il y a beaucoup de choses qui sont entreprises là-bas. Et au niveau du Mondomètre, c'était une belle semaine pour l'équipe Ineos avec la victoire de Michal Kwiatkowski hier sur l'Amstel. Et puis aussi la victoire au classement général de Daniel Felipe Martinez. C'était sur le Tour du Pays Basque. Je te propose d'écouter un monsieur que tu connais très très bien. Il avait une question à te poser. C'est pour entamer notre dernière partie. Lui, il a gagné 2 fois. Paris-Roubaix. Si je te dis Paris-Roubaix, quelqu'un que tu connais bien, t'as trouvé.
Salut Stéphane, c'est Marc. Écoute, là je suis au circuit des Ardennes avec les petits jeunes de la Conti. La météo est très compliquée. Il y a de la pluie, un peu de vent, il fait froid. Donc moi je voudrais savoir ce que tu préfères pour Roubaix, du beau temps sec ou plutôt des conditions difficiles avec de la pluie et du froid. J'ai ma petite idée sur la question, mais je préfère que ce soit toi qui réponde. Sachant que je pense que tu peux être opérationnel dans les deux situations. Donc écoute, je te dis à très vite. On a rendez-vous, comme tu le sais, le week-end prochain. Ciao.
Alors, préfères quoi comme temps dimanche? La pluie ou beau temps? De toute façon, tu poses la question, mais je suis sûr que tu sais déjà quel temps il fait dimanche.
Oui, j'ai déjà regardé. Et... si on peut y croire, ça va être sec. Et ouais. L'année dernière, j'ai pas eu une très très bonne expérience dans la pluie, mais bon, après on s'adapte. Mais je pense à Roubaix, il y a tout le monde qui est content quand il pleut pas.
Mais toi, ça t'avantage parce que plus ça sera sec, plus ça va aller vite?
Non, normalement, plus c'est dur, plus ça m'avantage en fait.
Tu préférais que ça soit crotté?
Ouais, je crois que tu peux pas vraiment dire oui. Moi, j'adore la boue à Roubaix, mais ça me dérangerait pas. Et l'année dernière, j'étais vraiment chaud pour. Je me sentais prêt et tout. Mais après, on a eu quelques soucis de matériel.
On va prendre des questions. On va revoir ton meilleur résultat à Roubaix. C'était en 2019, si je ne dis pas de bêtises. C'est le seul que tu aies terminé d'ailleurs. Tu prends la 11e place de cette édition. Qui est ton adversaire, celui que tu as pointé dans la grande tradition des contre-la-montreurs qui ont remporté Paris-Roubaix? Je pense à Francesco Moser. Je pense aussi à Filippo Ganna. D'ailleurs, on nous dit Filippo Ganna, on ne l'a pas vu. On parlait de fraîcheur. Il sera l'un des gros favoris dimanche. Ton adversaire a pointé dimanche, il y en a plein.
Oui, il y en a plein, parce que surtout à Roubaix, tu ne peux pas dire ça va être le scénario comme ça. Au Flandre et tout ça, tu sais à peu près où ça va se passer, mais à Roubaix, ça peut se passer partout. Et après, j'ai entendu à la Sarthe, Filippo, il n'était pas top. Donc après, c'est les rumeurs, bien sûr.
On écoute partout, voilà, aux portes. C'est voilà, Thibaut qui t'a dit ça. C'est Thibaut qui t'a dit, il est pas bien, Filippo, à la Sarthe. Thibaut, il était à la Sarthe.
Oui, mes espions à la Sarthe, ils l'ont surveillé et puis ils m'ont passé les infos.
Question qui n'a rien à voir avec Roubaix. Étant dans une équipe française, est-ce que les JO à Paris en 2024, c'est encore plus important? Je pense que déjà, JO 2024, c'est plus important parce que c'est en France?
Pour l'équipe, oui. Et aussi pour les sponsors de l'équipe, parce que FTJ sera aussi un des sponsors principaux des JO à Paris.
Bien sûr.
Et donc, pour eux, c'est très important. Et si on demande, par exemple, dans l'équipe des plus de recherche et développement, en vue des JO, ils sont prêts à faire l'effort aussi.
Ouais, sponsor de votre équipe, sponsor de l'équipe féminine, qui, on le rappelle, n'est pas la même structure. Ouais. Et puis, sponsor du sport français par plein de différentes caisses qui servent à aider le sport français. Il y a Mickaël qui dit il était sur le circuit de la Sarthe, mais il a mis le clignotant. Il a abandonné. Mickaël nous dit d'ailleurs, Thibaut est tombé deux fois. Est-ce que tu as des nouvelles? Si tout va bien pour Thibaut?
Oui, a priori, oui. Après, c'est jamais bien de tomber, mais il s'est pas fait trop mal. Et voilà, après, il a pris le plaisir quand même sur les premières étapes au circuit de la Sarthe.
Dans les échappées.
Ça va bien.
Dans les échappées avec Maître PCRC, avec des gros rouleurs, il s'est testé.
Ouais.
Par contre, il a terminé dans un tas de fumier. Ça, il n'a pas dit, mais je ne sais pas s'il te l'a dit, mais sa deuxième chute, bien amortie, tas de fumier.
Oui, il a mis une photo sur Insta et puis je dis, ouais, ça te rappelle de ta ferme. Il a pris avec l'humeur, donc ça va bien.
Oui, il a l'autodérision. Kevin qui demande, Stéphane, est-ce que tu reviens au chrono des nations en 2022? Tu l'as remporté l'année dernière, c'était ta dernière course de la saison.
C'est à voir avec ma femme. Si on parle en vacances avant ou après.
Déjà, les dernières, c'était quoi? Mexique, vous avez raboté un peu parce qu'il y avait le chrono des nations.
Non, en fait, c'est par hasard. Le rôle, on les a réservés, mais en fait, on est parti, je crois, mardi après le chrono des nations. Donc, c'est juste allé. Cette année, on ne sait pas encore où on va aller. Et puis, c'est à voir avec elle.
C'était prévu. Je ne sais pas, tu as qu'à lui proposer la Normandie. Après le chrono des nations, elle va adorer. Le maillot jaune au Danemark, est-ce que tu y penses? Question de Damiano en Toulonnais.
Bien sûr. J'y pense souvent. Et c'est le grand objectif.
De cette saison?
Porter
le maillot jaune une fois. Porter le maillot jaune une fois.
Oui, parce que la dernière fois où il y avait eu un prologue sur le tour, j'ai terminé deuxième derrière Geraint Thomas de Düsseldorf. J'ai eu des deuxièmes places et des proches au Tour de France, donc j'aimerais quand même bien en gagner une
Bah, l'année dernière, deuxième place l'année dernière au Tour, mais derrière un monstre. C'est-à-dire que l'année dernière, il y a Pogacar, c'était peut-être pas celui qu'on attendait. Par contre, tous les autres spécialistes de chrono, tu les bats. Entre Laval
oui,
mais... et Changé. Ou Changé et Laval,
oui,
je sais plus. On a les images
d'ailleurs. T'as acheté avec ça, avec une belle performance, tu vois, parce que deuxième, c'est premier perdant, et c'est comme ça dans le cyclisme. Donc, si tu me parles du chrono Changé Laval, c'est une défaite, entre guillemets.
Une défaite, mais encore une fois, je le rappelle, tu bats tous les spécialistes de chrono. Maintenant, Pogacar, il faut le mettre dans la catégorie spécialiste de chrono, même si sur le second chrono du tour, il était un petit peu moins fort.
Ouais, c'est un peu frustrant parce que, ouais, certes, tu te fais un peu une liste des adversaires dans la tête et Pogacar, tu peux jamais l'exclure, mais donc, sur un chrono comme ça, je me croyais quand même un peu davantage et puis après, ben non, il était plus fort.
Il y a plein de questions. Les autres objectifs, Julien, tu nous as dit, bon, le maillot jaune, on a compris. Dimanche, Paris-Roubaix, Zen. Enfin, Zen. Zen, pas avec un Z. Hein.
C'est les championnats d'Europe, les championnats du monde.
Chrono.
Et, ouais, chrono, mais aussi sur route, pourquoi pas.
Faudrait qu'il...
Parce que le parcours, il a l'air quand même assez intéressant en Australie.
Après Paris-Roubaix, coupure.
Oui, jusqu'au Tour de Suisse.
D'accord, Tour de Suisse. Tour de Suisse, après, c'est la préparation classique que tu fais chaque année pour le Tour de France.
Oui, parce que certes, c'est une longue période sans course, mais là, c'est quand même une période très, très intense. Depuis le 1er janvier, je n'ai jamais été à la maison plus longtemps que, je crois, 4-5 jours d'affilée. Donc, ça fait vraiment du bien de couper. De changer un peu les idées, de recommencer à bien monter en pression pour le Tour de France avec le Tour de Suisse, un peu comme course de préparation, mais bon, c'est chez moi, donc je vais toujours briller. Et puis voilà, pour être prêt au Tour et pour être prêt dès le premier jour en Danemark.
Très bien. On va regarder le programme de cette semaine sur Eurosport. Je ne sais pas si tu as le temps de regarder un petit peu les courses. Il y a le Tour de Turquie qui a commencé depuis hier. Deux infos comme ça. Nasser Bouhanni est tombé, il a abandonné. Et puis Nairo Quintana est tombé à deux reprises. On suivra ça demain, la suite, avec Louis-Pierre Frileux et avec David Moncoutier. Tour de Sicile, ça commence à partir de demain. Il y aura la Flash Brabançonne en cours de semaine. Et puis, je vous l'ai dit, les filles Paris-Roubaix, ce sera samedi, dimanche. Paris-Roubaix avec Stephen Kung sur le podium à minima. Moi, j'ai parié. J'ai parié avec M. Madiot, donc voilà. Et puis, la semaine prochaine, on va quitter la Suisse, on ira en Belgique. Notre invité, c'est un tout jeune coureur. Je pense que tu en as entendu parler. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de mettre un dossard avec lui cette année. C'est Arnaud Dely, le sprinter de la Lotto Soudal, à peine 20 piges, protégé de Philippe Gilbert. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la fin de la saison et la fin de la journée? Mettre les pattes en l'air. Tu as roulé aujourd'hui?
Non, aujourd'hui c'était repos complet et je me suis occupé de mon jardin. J'aime toujours faire ça après les courses pour. C'est comme un peu de méditation.
Jardin, non, mais je note, comme ça tu vois, je complète mes fiches, je complète mes fiches en même temps. Comment on prépare? Dernière question, donc aujourd'hui repos, jardin. Dimanche, il y a Roubaix. Comment ça va se passer mardi, mercredi, jeudi, jusqu'à Roubaix? Les rocos, elles sont
tu vois,
déjà
je me
faites.
Suis déjà habitué à la boue, au cas où, s'il y avait de la boue.
Le jardin.
Oui, j'ai déjà eu les mains bien sales de la terre.
Les mains dans la merde, tu peux dire ça.
Et puis après, demain, encore une fois tranquille, parce que c'était quand même une grosse course hier. Et puis, on monte en pression. Mercredi, une sortie d'endurance. Jeudi soir, je prends l'avion sur Paris. Vendredi, le co. Samedi, petit déblocage. Et puis,
tu prends la soir sur Paris? Ah oui, de Suisse pour aller à Paris.
Oui.
Et j'ai cru que tu prenais l'avion de Suisse pour aller de Paris pour aller à Roubaix. J'ai dit là, quand même.
Ah non, non, carbone, non, pas non, non. De Zurich pour aller à Paris.
Et Reco, vendredi?
Vendredi, ouais. Mais on fait la Reco de la première partie des pavés, en fait. On commence à Trois-Villes et on va jusqu'après la Trouée. Et vu que j'ai déjà fait la Reco de la deuxième partie la semaine dernière, j'aurais pu.
Est-ce qu'on t'a fait, tu as vu le nouveau secteur pavé, le secteur Fred Guédon, tu l'as vu, j'imagine?
Non, en fait, je ne l'ai même pas vu. On a fait attention avec Julien et Thomas Bourgeois. On a dit, mais il doit être là quelque part. Après, on ne s'est pas arrêté. Et en fait, il a dit, ouais, la stèle, elle n'est pas à l'entrée du secteur, elle est à la sortie. Donc, c'est pourquoi.
Il y a une mafia dans cette équipe. Ils ont déjà deux secteurs pavés, un pour Fred et un pour Mac, deux anciens vainqueurs de Paris-Roubaix. On te souhaite d'avoir le tien lundi. Je te souhaite ça. Hein?
Mais bon, ils l'ont eu toujours un peu plus tard. Donc, un jour,
Ouais,
il
il faudra faire des demandes. Il faudra faire des
je
demandes,
suis
mais
content.
si Marc et Fred appuient la demande, on y arrivera.
On croise les doigts, ouais.
Sylvain Dillier, dernier Suisse sur le podium de Paris-Roubaix, c'était derrière Peter Sagan. On te remercie, Stéphane, à très très vite sur les antennes. Et déjà à dimanche, lundi, nouveau Bistro Vélo. Salut Steph.
Merci. Ciao.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.